Donc, quand vous êtes dans une perspective de compréhension, vous devez du coup voir ça comme différentes versions possibles. Mais différentes versions possibles à partir de quoi ? À partir d'éléments communs de base. C'est comme si vous avez, vous connaissez les Kapla, non ? Comme jeu ? Non. Donc, vous avez 150 Kapla, et vous pouvez. Vous voyez ce que c'est, ces petits trucs de bois avec lesquels on construit. Donc, vous avez 150 Kapla, et vous pouvez construire ce que vous voulez comme chose. Donc, vous mettez 10 personnes avec 150 Kapla chacune, elles vont chacune réaliser des choses différentes. Vous allez dire, mais comment c'est possible ? Alors, vous arrivez après coup, et vous voyez 10 réalisations différentes. Vous allez dire, mais. C'est 10 versions différentes. Mais 10 versions de quoi ? 10 versions différentes d'un stock identique à l'origine, les 150 Kapla. Donc vous allez partir des différentes versions et vous allez essayer de déterminer en amont de ces versions qui sont toutes différentes le plus petit dénominateur commun qui permet d'honorer ces 10 versions. Et vous allez dire, ce qu'il y a de commun, c'est 150 Kapla qui étaient mis dans une boîte. Vous voyez ? On va voir que la théorie du genre, elle va apparaître à partir de là. C'est-à-dire, vous avez diverses versions possibles. Comment c'est possible, ça ? Justement, il va falloir revenir sur des briques, des éléments, des matériaux de base et essayer de montrer comment ces matériaux ils sont agencés différemment. Alors évidemment, 150 Kapla, vous pouvez les agencer de manière très différente. Je ne suis pas mathématicien, il faudrait faire un calcul, mais je pense que ça fait sûrement beaucoup. Donc c'est pareil. À partir d'un stock de base qu'il va falloir déterminer, alors là, le psychiatre, il va déterminer un stock de base qui ne sera pas le même forcément que le physiologiste ou que le généticien. Chacun va travailler à partir de sa méthode et de ses objets, de ses éléments. Mais à partir de là, on va essayer de comprendre comment on peut arriver à diverses versions. Et là, la version qui arrive le plus fréquemment, elle n'est pas plus intéressante que les autres, à la limite. À la limite, ce n'est pas plus intéressant que les autres. Vous voyez, ça c'est très important. Voire même, si en plus vous êtes... Alors, j'anticipe un peu, mais j'ai déjà dit un peu ce matin. Si en plus... La version qui arrive le plus souvent, elle est déterminée comme la seule version légitime, et que les autres sont déterminées comme des versions pathologiques, voire dangereuses pour l'ordre social. Là, vous avez un principe d'explication tout trouvé, que la théorie du genre va développer sous des modalités différentes. En fait, ce qui arrive le plus souvent... C'est parce que ça correspond à un matraquage idéologique. La preuve, c'est que les versions qui arrivent le moins souvent sont vues comme des versions malades ou perverses, de gens dangereux, soit qu'il faut enfermer, soit qu'il faut de toute urgence traiter. Et donc là, vous avez, à partir de là, une compréhension, non plus en termes de santé, voire de réalisation de soi, naturel, vous avez une interprétation politique. Ce qui arrive le plus souvent, c'est ce que la société, pour des intérêts qui restent à déterminer, promeut comme le modèle le plus intéressant. Par exemple, fabriquer de la chair à canon, c'est ce que je disais ce matin. Ça, c'est une possibilité, mais ça pourrait être d'autres. La chair à canon a été remplacée par le prolétariat dont le capitalisme avait besoin. Enfin, vous pouvez trouver différentes versions de politique nataliste. Donc la société politique, elle valorise un modèle. Du coup, évidemment, c'est ce qui arrive le plus souvent. Mais c'est pas parce que ça arrive le plus souvent que ça correspond à un ordre naturel immuable et en plus bon pour l'être humain, soi-disant l'être humain. Ici, ce qui arrive le plus souvent n'est que quelque chose de descriptif, de statistique, qui en lui-même ne correspond à aucun argument de type anthropologique ou moral. Vous voyez ou pas? Et là, à partir de là, vous avez déjà la possibilité de comprendre comment des phénomènes ultra minoritaires quantitativement, et qui demeurent largement minoritaires, peuvent apparaître comme le point de départ d'une critique qui, de proche en proche, va se répercuter sur l'ensemble des versions. Et c'est ça la politisation de la sexualité et la dénaturalisation de la sexualité. Le résultat des courses ici, c'est que ce qui arrive le plus fréquent, c'est pas du tout parce que c'est naturel au sens où on en a parlé ce matin, c'est simplement, je répète, parce que c'est pour des enjeux politiques. Vous voyez ? Et c'est ça, la théorie du genre ici, elle va intervenir. Alors là, j'en suis pas encore vraiment. Mais voyez, là, j'ouvre la possibilité, à partir de ces cas qui ont été d'abord étudiés par des psychiatres, qui en eux-mêmes cherchaient à comprendre ce qui se passait. Hein. Ce n'était pas encore dans une perspective de critique. Notamment le livre de Stoller, sous bien des rapports, fait un travail de psychiatre qui cherche à comprendre comment on peut avoir justement ces dysfonctionnements de l'identité sexuelle, qui sont des cas réels, bien sûr. À partir de ces cas, disons, médicaux ou psychiatriques, on peut réutiliser ce matériau dans une perspective critique. Dans une perspective critique. Vous voyez ? Alors, quand vous remplacez après l'identité, les troubles de l'identité sexuelle, par exemple, par un vécu homosexuel, ben vous êtes exactement dans le même dispositif. Je rappelle que l'homosexualité a été enlevée des pathologies psychiatriques dans les années 70, entre 70 et 80-90. D'accord ? Jusque dans les années 70, dans les livres psychiatriques, l'homosexualité était vue comme une pathologie psychique. Bon. Et donc, tout ça pour dire que le raisonnement que je fais ici à partir du trouble de l'identité sexuelle, vous pouvez le faire exactement par rapport à l'homosexualité. C'est-à-dire qu'on a pathologisé, on a considéré comme pathologique un comportement minoritaire qui effectivement était minoritaire, mais pourquoi finalement, qu'est-ce que cette minorité indiquait ? Ben, ça indiquait simplement qu'il y avait un modèle dominant qui arrivait le plus souvent, parce qu'il était promu par des intérêts politiques et une volonté sociale d'imposer une manière habituelle de vivre. Bon. Alors, lisons rapidement ce petit texte de Stoller. Donc je vous laisse lire le livre de la page de Castel, j'ai pas beaucoup de temps, mais qui va nous donner un peu de grain à moudre, si je puis dire, par rapport à ça. Alors je lis ces deux extraits. Ces dernières années, Monet et les Hampson, se fondant directement sur cette connaissance des expériences d'apprentissage postnatal comme essentielle à la sexualité, ont nettement soutenu la thèse selon laquelle sexe et genre ne sont pas nécessairement dans un rapport de symétrie. Pour démontrer cette thèse, ils ont surtout eu recours à des expériences naturelles dans lesquelles les variables de sexe et de genre ont été le fait du destin. Ils citent par exemple cette expérience classique dans laquelle deux enfants sont nés avec le syndrome génito-surrénal. Ils sont tous deux femelles sur le plan génétique, sur le plan des gonades et de l'endocrinologie, et leurs structures sexuelles internes sont normales, bien que leurs organes génitaux externes soient masculinisés. Si à la naissance, l'un de ces enfants est correctement désigné comme une fille et que l'autre est étiqueté à tort comme garçon, en raison de ses organes génitaux apparemment mâles, lorsque ces enfants atteignent 5 ans, celui que l'on a pensé sans équivoque être une fille ne doute pas d'être vraiment une fille, et celui que l'on a pensé être un garçon sait qu'il est un garçon. Ce qui a déterminé le comportement de genre de ces enfants n'était donc pas leur sexe biologique, mais leurs expériences vécues après la naissance, un processus très compliqué qui commence dès l'étiquetage autoritaire et arbitraire du petit enfant par la société comme mâle ou femelle. Je vais tout de suite le deuxième texte, après je vais y revenir. Dans notre tentative d'une plus grande précision, nous avons isolé le genre comme partie distincte de la sexualité. Les dictionnaires mettent essentiellement l'accent sur la connotation biologique du mot « sexe », par exemple dans des expressions comme « relation sexuelle » ou « le sexe masculin ». Selon ce principe, le mot « sexe » dans cet ouvrage se rapportera au sexe mâle ou femelle et aux parties biologiques qui le composent, déterminant si l'on est mâle ou femelle. Le mot « sexuel » aura des connotations anatomiques et physiologiques. Il est évident que cela laisse de côté d'immenses zones de comportement, de sentiments, de pensées, de fantasmes qui ont rapport au sexe et n'ont pourtant pas essentiellement de connotation biologique. C'est pour certains de ces phénomènes psychologiques que le terme de genre sera employé. On peut parler du sexe mâle ou du sexe femelle, mais on peut également parler de masculinité et de féminité et ne pas nécessairement impliquer quoi que ce soit d'anatomique ou de physiologique. Ainsi, alors que sexe et genre semblent être pratiquement synonymes pour le sens commun et dans la vie de tous les jours être inextricablement liés, l'un des buts de ce travail sera de confirmer le fait que les deux domaines, sexe et genre, ne sont pas dans une relation de symétrie, mais peuvent suivre des voies totalement indépendantes. »